Merci beaucoup à l'équipe Louange. On entend souvent qu'on est au ciel après la louange, mais on était vraiment au ciel ce matin, les amis. Et je pense que ce n'est pas fini. Un message que j'ai sur le cœur depuis pas mal de temps. Faut savoir que j'attaque souvent mes messages en disant que je ne suis pas théologien, je ne suis pas pasteur, mais que j'aime Jésus. Merci Elodie, tu viens d'avoir ton salut à ce moment-là. Si tu n'en étais pas sûr. Il y a eu des changements depuis, parce que je peux vous dire que je suis pasteur, je suis devenu pasteur. Alors pas de cette église, je suis devenu pasteur de ceux qui ne viennent pas à l'église. En fait, j'ai pris conscience que j'étais pasteur de ceux qui ne viennent pas à l'église. Et c'est le titre de mon message ce matin. Alors ce titre ne vient pas de moi. On était invité il y a quelques temps chez Matt Marvan. On a la chance d'être amis avec la famille Marvan et qui nous connaît bien aussi. Et il m'a offert ce bouquin dont le titre est Pasteur pour ceux qui ne viennent pas à l'église. Il savait que j'avais été aumônier, il sait un peu le cœur que j'ai, le cœur que Mela a pour ceux qui, pour les perdus, hein, pour ceux qui sont un peu en déconnexion de la société. Et ce livre m'a vraiment inspiré. C'est le responsable de leur famille d'église, hein, qui l'a écrit. Et depuis, j'ai vraiment un message, voilà, sur le cœur pour ça, parce que en plus, ça appuie vraiment la vision de notre Église avec les trois A. Vous vous souvenez tous les trois A. Adorer Dieu, aimer, servir la ville et apprendre à vivre comme Jésus. Et en plus de ça, Matthieu nous parle souvent de faire des disciples. Et je crois qu'au bout d'un moment, il faudra qu'on prenne conscience qu'il faut pousser nos portes, qu'il faut sortir de notre Église. Parce que je crois que Dieu a prévu de nous embarquer dans son histoire. Et quand on lit un petit peu la Bible, il y a quand même plein d'histoires où on voit que Dieu veut nous faire sortir de nos maisons. On parle souvent, nous, du fils prodigue, hein, c'est un peu l'ADN de notre Église, et je vais pas développer aujourd'hui, puis il y a bientôt le week-end du cœur du Père, mais quand même, on voit ce papa qui sort de la maison pour aller chercher son enfant. Et l'enfant arrive, ils font la fête pour ça. Et même dans la soirée, pendant la fête, il ressort pour aller chercher le deuxième enfant. Et on voit que c'est le cœur du Père. Ça, c'est vraiment le cœur du Père de sortir de sa maison. Pareil pour le berger avec ses 99 brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Pareil, c'est les entrailles. Dieu nous aime énormément, mais je crois qu'il y a quelque chose qui vraiment de lui, de compassion pour ceux qui sont perdus. Et pareil, à la fin de l'histoire de Zachée, hein, le fils de l'homme est venu pour chercher celui qui était perdu. Et voilà, ça sera la base de mon message ce matin. Et je crois, vraiment je crois qu'il a besoin d'un peuple avec lui, et ce peuple c'est nous. Et je voulais tous vous dire ce matin que nous sommes tous qualifiés. Nous sommes tous qualifiés pour être de puissants témoins dans ce monde. Puissant témoin de l'amour de Dieu dans ce monde. Nous sommes tous qualifiés. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. C'est bien, vous connaissez bien votre Bible. Je me réjouis de ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que nous sommes tout le temps la lumière du monde, où que nous soyons? Est-ce que nous sommes réellement ce sel qui change la saveur de là où nous sommes? Est-ce que nous sommes ce peuple qui changeons l'atmosphère là où nous sommes? C'est cette question-là qu'il faudra qu'on se pose ce matin. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Et pour partager ça, je vais demander à l'équipe technique de mettre une photo. J'aimerais bien qu'on parle ce matin. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. C'est une photo d'un bateau de croisière et une photo d'un bateau de sauvetage. Et je veux vous dire, les amis, l'Église Connect ne doit jamais, jamais, jamais être un bateau de croisière. L'Église Connect ne doit pas être là juste pour amuser les gens, juste pour passer un bon moment. Mais l'Église Connect doit être un bateau de sauvetage. Un bateau de sauvetage, ça mène où? Ça mène sur la terre ferme. Jésus. Eric nous a sorti un super message là, il y a un mois sur « Jésus est suffisant ». Bon, il m'a demandé de parler un peu de lui, c'est pour ça qu'il s'est mis au premier rang. Il avait besoin d'être... Il a un peu des problèmes d'identité, et il m'a dit, tu peux m'honorer. Non, je le chambre, c'est un ami à moi. Et Mais c'est vrai que j'étais pas là il y a un mois, et à l'hôtel j'ai écouté son message et il m'a vraiment touché. Et ce matin, ça va être complètement complémentaire. Amener les gens à Jésus. Et j'aimerais qu'on parle dans un premier temps ce matin sur la responsabilité. La responsabilité. Sur un bateau de croisière, la responsabilité, elle est sur qui ? Elle est sur le capitaine et son équipe. Il y a les gens qui vont sur un bateau de croisière, ils disent « Ouais, j'ai payé, moi je veux du service ». Vous pouvez voir, il y a quelques canots de sauvetage, mais ce n'est pas la cible. Ce n'est pas la cible d'un bateau de croisière, les canots de sauvetage. La cible du bateau de croisière, c'est de faire passer du bon temps aux gens. C'est d'animer. Les gens, ils sont là. Ils veulent bien manger. Ils veulent faire la fête. L'équipe Connect ne doit jamais, jamais avoir pour ambition d'animer les gens. L'église Connect doit être un bateau de sauvetage. Je le répéterai tout le long de mon message. On doit amener les gens à Jésus seul. Et pour ça, vous allez voir à travers deux textes qu'il a besoin de nous. Galates 3, verset 26. « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous êtes unis à Christ dans le baptême et vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'offre donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme, enfant. En effet, vous êtes tous dans la communion avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors des descendants d'Abraham, vous recevez l'héritage que votre Dieu a promis. Nous sommes un en Christ, nous sommes unis, que nous soyons enfants, adultes, femmes, enfants, femmes, hommes, pauvres, riches, chinois, américains, européens, dromois, ardéchois, on est unis en Christ. Nous sommes une même famille. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes la race choisie, un sacerdoce royal. On a une fonction royale, un ministère royal. Des prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous annonciez les vertus, que vous proclamiez les œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de compassion de Dieu, mais maintenant, vous avez été accordé. Les amis, nous sommes un peuple. Ce n'est pas la responsabilité des responsables de cette église d'annoncer ce que Dieu a fait dans votre vie, d'annoncer ses vertus. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais Matthieu n'est pas un peuple. Olivier n'est pas un peuple. Leurs familles ne sont pas un peuple. Nous sommes un peuple. Nous sommes une famille unie en Christ. Et notre devoir, c'est d'aller proclamer ce que Dieu a fait dans nos vies, d'amener les gens à Jésus. Et je vais vous dire ce matin, ce n'est plus suffisant d'inviter à l'église. Merci, peut-être qu'il y en a qui sont invités ce matin et vous avez bien fait d'être là. Et ce n'est pas pour rien si vous êtes là. Mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'aller rencontrer. Si on fait des disciples, c'est d'aller rencontrer les gens qui ne viennent pas à l'église. Merci pour ce qu'on vit ici. Merci. Et comprenez bien, c'est génial d'inviter. Ça ne suffit plus. Si on veut faire des disciples, au bout d'un moment, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on en rencontre des gens. Il faut qu'on leur raconte ce que Dieu a fait dans nos vies. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On a reçu une puissance. Ce n'est pas rien de recevoir une puissance. Ce n'est pas que certains qui ont reçu une puissance. Ça nous arrangerait finalement. Ça nous arrangerait que ce soit certains comme ça. À eux les responsabilités. Non, non. On est unis en Christ. On est une même famille. On a reçu la même puissance, la même autorité. C'est notre rôle à chacun d'entre nous, les amis. À chacun d'entre nous. Je ne vais rien vous apprendre là, dans les versets que je vais dire. Hein. Mais au bout d'un moment, il faudra qu'on sorte de nos maisons. Au bout d'un moment, il faudra qu'on sorte de nos églises et pas tout remettre sur le dos des leaders et des responsables. J'aimerais vous demander ce matin, où vous en êtes avec tout ça ? Où vous en êtes avec tout ça ? Moi, des fois, le Saint-Esprit me reprend. Des fois, le Saint-Esprit me reprend et me dit, Brice, t'es pas un peu sur le bateau de croisière en ce moment ? Rappelle-toi d'où je suis venu te chercher. rappelle-toi d'où je suis venu te chercher. Tu crois que c'est juste pour venir lever les mains à la louange, dire waouh, on était au ciel, ouais, c'est génial, on invite. Vous allez voir, mon église, c'est cool, vous allez venir, on va vous faire des gros hugs, des bisouilles, il y en a qui vont danser, vous aurez un super message. Non. Non, non, moi je sais que s'il m'a appelé, c'est pour parler de Jésus autour de moi et d'amener à Jésus. Et bien sûr qu'après, c'est évident. C'est évident que la personne va poser des questions et qu'il va dire, tu fais quoi le dimanche? Et bien sûr qu'on l'invitera et que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une finalité. Alors tu vas peut-être me dire, ouais, mais bon, moi, c'est pas facile, je suis timide, je suis pas un gros orateur, je connais pas trop ma Bible. Ouais, puis on va me poser la question, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerre dans le monde. J'ai beaucoup aimé, comment il s'appelait la personne au week-end de rentrée, Phil, qui nous avait expliqué qu'il y a 5 évangiles. Il y a les évangiles qu'on connaît, les 4, et le 5e, c'est ta vie, c'est ton histoire. Tout le monde a une histoire. Vous êtes tous différents. Dieu a parlé à chacun d'entre vous à un moment donné. Vous avez tous une histoire à partager. Et puis après, vous pouvez vous préparer. J'ai un autre petit passage. Alors, c'est 1 Pierre 3,15. Soyez toujours prêts à vous défendre ou à répondre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ça veut dire qu'on peut se préparer. Ça veut dire qu'on peut raconter notre histoire, tout en réfléchissant à la puissance qui nous est donnée quand même. Parce que le coup du timide, quand même, la timidité, je veux bien qu'on soit différent, mais ça ne vient pas de Dieu. Et ça, on peut prier pour ne plus être dans cette timidité-là. Parce que quand même, le Seigneur nous a donné un esprit de force et de courage, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est aussi important. Mais n'empêche, je reparle de ton histoire et tu peux te préparer. Et si tu as une moins bonne éloquence que d'autres, voilà, tu peux rentrer chez toi, tu peux dire, notez en 3 points ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, quand j'ai commencé à être aumônier de prison, j'ai eu zéro formation. J'ai eu zéro formation et au début, c'était super dur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et pareil, moi, j'ai dans ce truc, je suis pas théologien, je suis pas truc, j'ai pas fait d'école. Et voilà, puis j'ai tapé à des portes et Dieu m'a vraiment montré de juste m'intéresser aux gens. Il dit, vas-y, t'es pas théologien, mais intéresse-toi aux gens. Et je me rappellerai toujours qu'un jour, à l'époque, on avait le droit de faire du porte-à-porte. Hein, c'était avant Charlie Hebdo. Après, c'était différent. Fallait que les gens s'inscrivent sur une liste. Et je tape, je rentre, et le gars vraiment un regard méchant. Et on voit que c'est une vraie brute, hein, le gars, quand même. Hein. Et il me dit, mais tu veux quoi, toi? Je dis, ben voilà, il pensait que j'étais de la BAC. Il dit, non, je suis aumônier de prison. Il dit, ouais, je suis pas chrétien et puis j'ai pas tant à passer avec toi. Et puis je me mets à sourire. Il me dit, ça te fait rire? Et je lui dis, ouais, tu me fais penser à moi avant. Il me dit, comment ça à moi avant? Je lui dis, moi aussi j'ai fait des bêtises, moi j'ai pas tout le temps été chrétien, moi aussi j'étais nerveux comme toi. Et je lui dis, d'un seul coup, je lui dis, laisse-moi deux minutes, je te raconte juste mon histoire, je te dis pourquoi je suis là. Après, t'adhères ou t'adhères pas, je sortirai. Et le gars, je commence à lui raconter mon histoire alors. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un passé un peu agité, hein, puisque ma mère s'est suicidée, j'étais petit, mon père a été assassiné, j'avais 17 ans, et je lui rends compte que voilà, Dieu a mis sur ma route que j'ai fait des choses très graves dans la débauche, et que ça se trouve j'ai fait des choses pas pires que ce qu'il a fait, que j'aurais dû faire aussi de la prison. Et ce gars-là, cette grosse brute, et c'était vraiment un cas, hein, il était assis à côté de moi, et 10 minutes après, je priais pour lui, il pleurait. C'est pas moi, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et on n'est pas obligé d'être théologien, on n'est pas obligé de faire une école biblique. Juste, mais tu as ton histoire, mais tu peux préparer ton histoire. Et tu as certaines questions, ben voilà, pourquoi il y a la guerre dans le monde, tout ça. Tu peux aller chercher des réponses. Hein. Il y a des choses pas compliquées à répondre. Mais il faut savoir que les gens vont être intéressés plus sur le fait que tu t'occupes d'eux que de ton savoir. Et ça, c'est intéressant. Et que c'est ton rôle de te développer. Dieu a besoin de toi dans ces cas-là. C'est ton rôle de développer ton histoire, de savoir ce que Dieu a changé à ta vie. Et ce n'est pas une question d'être à une vie à la Nicky Cruz, hein, souvent dans nos milieux évangéliques, on voit des super témoignages, tout ça. Non, tu es enfant de chrétien peut-être depuis des générations, mais Dieu peut-être tous les jours, tu as des témoignages, écris ton témoignage, Dieu t'aide dans tes faiblesses, Dieu t'aide dans tes rapports avec tes parents, avec tes sœurs, tes frères. Tu peux noter deux, trois trucs qui peuvent impacter. Et la personne, s'il est en confiance, voilà, tu pourras l'inviter, tu pourras lui dire, ben voilà, ça me fait plaisir que tu veuilles discuter avec moi, je vais te dire pourquoi je suis comme ça, je vais te dire pourquoi je suis comme ça. Mais pour qu'on nous pose des questions, il faut qu'on soit une lumière, il faut qu'on montre la différence, il faut qu'on soit ce sel. Vous êtes d'accord avec moi ? Cool, ça m'arrange. N'oubliez pas non plus, hein, nous ne sommes pas le cep, nous sommes les sarments. C'est le cep qui donne cette force qui sauve les gens. Et nous, on doit se connecter à celui qui sauve. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Souvent, on veut se prendre, on se met dans un rôle comme ça de « Allez, c'est moi, allez, c'est moi ». C'est là où on explose souvent. C'est là où on explose souvent. Mais si on se dit qu'on est le cep, qu'on va se connecter, qu'on est le sarment, qu'on doit se connecter à ce cep, et qu'on va être un sarment vivant, ça enlève beaucoup de responsabilités, ça enlève beaucoup de poids, ça enlève beaucoup de pression. Donc finalement, c'est peut-être pas simple, mais c'est pas si compliqué. Donc tu vois, c'est Pierre qui le dit, on peut se préparer. Une autre chose que je veux parler, je le prends sur moi. Nous devons aimer avant de juger. Là, vous allez tous dire amen. Moi, je crois que nous, les évangéliques, très souvent, nous avons corrigé avant d'aimer. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a toujours dit les choses en vérité, mais il a toujours aimé avant de dire les choses. Regardez avec le brigand comment il était. Regardez avec la femme adultère. Regardez avec les collecteurs d'impôts, tous ces magouilleurs, tous ceux qui prenaient de l'argent aux pauvres pour donner aux riches. Regardez comment il était avec la Samaritaine. Il a aimé et il permettait aux gens d'aller de l'avant. Et nous, je trouve, je le crois, que régulièrement, on va montrer facilement ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Ah, tu ne devrais pas fumer. Ah, oh, tu ne devrais plus prier Marie. Ah, oh, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Ah, vous êtes un jeune couple, il ne faut pas trop que vous restiez ensemble. Ah, avant le mariage, faites attention. Et d'entrée, la personne, à peine on commence à discuter avec elle, on commence à parler de tout ce qui ne va pas dans sa vie. Qui d'entre vous était parfait à ses débuts ? Honnêtement, vous ne l'êtes même pas aujourd'hui. Aimons avant de juger, aimons avant de corriger. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est bien. Jésus était l'ami des pécheurs. Pour être ami, il faut que ça matche des deux côtés. Hein ? Le troisième A, vous rappelez ? Apprendre à vivre comme Jésus. Ben moi, je vais vivre comme Jésus, je vais être l'ami des pécheurs. Est-ce que vous êtes l'ami des pécheurs ? Ou est-ce que vous êtes l'ami des chrétiens ? Dans les 6 derniers mois, qui est venu manger chez vous ? C'est 90% de chrétiens ? Ou il y a un peu d'autres personnes ? Oh. C'est important notre façon d'être, les amis. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas notre savoir qui va impressionner les gens. Si on arrive avec notre table de la loi en disant ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, le cœur en face il va se refermer. Ce qui touche les gens, c'est que vous vous intéressez à eux. Et n'oubliez pas qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui change les cœurs. L'amour n'est pas là pour gagner un débat, l'amour il est là pour gagner une personne. Tu peux gagner ton débat et perdre la personne. Tu peux avoir dit juste dans ce que tu as dit, mais de la façon dont tu l'as dit, tu as perdu la personne. C'est comme si tu avais perdu. Et des fois, je trouve qu'on arrive un peu comme des colonisateurs et il faut qu'on raisonne comme si... Il y a des fois, ce n'est pas que la foi de la personne qu'on impacte. C'est toute sa culture, c'est toute son éducation, c'est toute son enfance. Imaginez-vous, on discute avec quelqu'un de catholique, et c'est vraiment des frères, des sœurs, on croit au même Dieu, tout ça, et d'entrer, ils disent « Oh, mais arrête de prier Marie, enlève cette croix. » Mais c'est normal que le cœur se ferme. Imaginez-vous de discuter, moi j'ai rencontré plein de musulmans, le petit musulman qui a grandi en écoutant le Coran sur les genoux de son grand-père. Vous commencez à lui montrer d'entrée ce qui ne va pas dans sa foi, que nous on croit ça, et puis nous il y a ça, et puis nous il y a ça. Mais c'est son enfance que vous faites exploser, c'est son éducation, c'est sa culture. Alors que si vous dites, vas-y, raconte-moi ta culture, raconte-moi ton histoire, raconte-moi ton enfance, moi j'aime ça. Mais il faut le faire réellement, il ne faut pas avoir des arrière-plans, le faire vraiment, vraiment s'intéresser aux gens. Ça change tout. Je crois que nous, et on a besoin de se remettre en question sur notre engagement, sur ce qu'on attend de l'Église, sur ce qu'on apporte à l'Église, de la façon dont on est avec les gens. Ça m'a tellement appris d'être aumônier de prison, de s'asseoir à côté de la personne et lui dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Vas-y, raconte-moi ton histoire. Raconte-moi ton histoire. » Le gars, après, il vous pose des questions. Et puis des fois, il faut être patient. Toujours en se disant que, voilà, nous, on est là pour témoigner, mais c'est Saint-Esprit qui fait la suite. Cette semaine, j'ai un ancien détenu que j'avais embauché qui m'appelait, quelqu'un que j'aime beaucoup, et on a rigolé aujourd'hui, on s'est remémoré d'une chose. Pareil, un vrai fou furieux, un ancien, ce qu'on appelle dans notre jargon évangélique, cœur d'orphelin. Hein, il a toujours vu son père frapper sa mère. Une fois, il a balancé son père par la fenêtre. C'est les barreaux de la fenêtre qui ont sauvé son père. Donc vraiment gros jet au niveau de... du papa, sa mère après est décédée, et voilà, il a été dans les tireurs d'élite dans l'armée française, il a vécu en Afghanistan, il a vécu des choses très très graves, et un vrai violent, vrai bagarreur, un foot de Lyon, dommage, sachant qu'on sait qu'il n'y a que Marseille comme club en France, mais... Et sachez qu'il était dans les bad guns à Lyon, c'est-à-dire c'est vraiment les voyous, c'est vraiment les racistes, c'est vraiment... Et c'est le vrai de vrai, hein, crâne rasé, tatoué, tout ça. Et voilà, je m'étais vraiment, vraiment lié d'amitié, il venait à toutes les célébrations. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié et que j'ai embauché derrière. Mais vraiment un vrai violent qui s'était tourné vers Dieu, mais voilà, Dieu n'en a pas fini avec lui comme il n'en a pas fini avec nous, hein, mais... Et voilà, il était même allé se former un an en Angleterre pour se battre dans les stades. Il s'est battu dans tous les stades d'Europe. Voilà, c'est le vrai de vrai. Et je me rappelais toujours une fois, je l'avais embauché, il travaillait dans ma société, et il y avait le match Saint-Étienne-Lyon. Et on pensait, Dieu a de l'humour, parce qu'il était du 69, il venait bosser la boîte dont je suis le directeur, et dans le 42, et comme bras droit, c'était un musulman. Hein. Donc c'était, j'ai dit, Dieu, c'est bon, là, tu t'en occupes. Et en fait, il y avait un week-end Saint-Étienne contre Lyon. Et il me dit, non, mais Brice, je pense que je ne vais pas y aller. En plus, les supporters sont interdits. Et voilà, donc je ne pense pas que j'irai. Puis je le vois lundi, Lyon, je crois que Lyon avait gagné. Je vais le voir. Je lui dis, alors, tu as pu résister ? Il dit, non, au dernier moment, je suis allé. Et voilà, mais franchement, Brice, en gros, tu aurais été fier de moi. Je me suis super bien tenu et tout. Bon, il y a deux gars qui ont fait le malin. J'ai mis deux pêches, mais sinon, super bien. Comprenez bien quand vous êtes avec ces gars-là. Tu connais. Quand vous êtes avec ces gars-là, ben oui, vous pouvez venir avec votre table de loi. Il faut te repentir, c'est du contre-témoignage, c'est du truc, c'est tout ça. Je ne sais plus trop comment j'ai réagi. Il a vu que je n'ai pas validé, mais je ne l'ai pas accusé. Parce que ce gars-là, qui a mis deux pêches la veille, tous les matins quand il venait, il mettait de la louange à son ordinateur. Qu'il soit seul ou qu'il y ait 10 personnes dans son bureau, il mettait la louange forte. Et ce n'était pas de la louange américaine, il mettait du Matt Marvin, où tout le monde entendait les paroles. Je vais vous faire un CD pendant son séjour en prison. Il a rencontré Matt derrière, Matt l'a invité à son église, tout ça. Voilà. Imaginez que j'arrive, mais un gars comme ça, son cœur serait fermé tout de suite. Je ne dis pas qu'il faut valider les comportements de tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut dire oui, amen à tout, mais juste qu'on aime avant de corriger et qu'on aide avant de leur permettre d'aller de l'avant. Je crois que c'est notre rôle, C'est notre rôle d'être dans ce bateau de sauvetage, d'amener sur la terre ferme. Terre ferme, c'est Jésus-Christ. Jésus est suffisant. Hein, Eric ? Jésus est suffisant. Voilà. Et nous, qu'on ait notre rôle de lumière, qu'on ait notre rôle de sel. Et il faut prendre courage, des fois. Il faut prendre courage. Pierre, quand il était sur la barque, ben oui, il a vu Jésus, il est sorti, puis il y a la tempête qui est arrivée. Des fois, de raconter son témoignage, de raconter de ce que Dieu fait pour nous, ben oui, on tangue, ben oui, on truc, mais rappelez-nous, c'est pas nous qui sauvons. C'est pas nous qui sauvons. Et le Saint-Esprit qu'on a reçu nous permet de passer bien des tempêtes. Et Pierre, ben, Jésus, comme par hasard, il est venu chercher, il a calmé la tempête, viens, on retourne sur la barque. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Les amis, on a besoin de sortir. Soyons pas comme une église toile d'araignée. J'ai entendu ça dans un message de je ne sais pas qui. L'araignée, elle tisse sa toile et elle attend. Ne soyons pas là entre nous en attendant que les gens rentrent. Allons les rencontrer. Allons les aimer. Allons les encourager. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. C'est pas dans la Bible, mais c'est ce que je crois. On a donné le micro, donc je suis content. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Je crois que trop de sel brûle la langue. Je crois, et vraiment, c'est pour moi aussi, c'est aucun jugement, je me mets là-dedans, que trop de lumière brûle les yeux. Je crois que si on est trop entre nous, c'est... Blablabla. Et quand il y a trop de lumière, c'est « Ah, t'as vu, l'église, ouais, le message était moyen, mais j'espère que ça va mieux la prochaine fois. Ouais, puis à la louange, lui, ça fait trois fois, moi, ça fait qu'une fois. Blablabla. » Vous voyez, comme l'esprit du bateau de croisière, l'esprit de ceux qui payent revient vite. C'est pareil pour moi. Alors que si nous n'attendons rien, que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, on regarde tous dans la même direction. On regarde tous vers celui qui a sauvé. On regarde tous les gens qui sont autour de nous, toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Et t'es la meilleure personne pour la personne que Dieu met sur ton chemin. Et ça, n'en doute pas. Dieu te connaît, Dieu connaît ton histoire. Il ne va pas te mettre des gens complètement opposés dans un premier temps. Vraiment pas. Mais peut-être qu'il te fera grandir à travers ces relations-là. Moi, j'ai eu un deal avec lui. Quand j'attaquais aumônier, il y a des profils que je ne pouvais pas. Autant les braqueurs, les bagarreurs, tout ça, ça ne posait aucun problème. Rose était petite à cette époque-là. Ceux qui touchaient les enfants, j'ai dit, Seigneur, j'ai eu zéro formation. Juste, je n'ai pas eu la première année. Par contre, j'en ai eu après. Mais par contre, il avait travaillé dans mon cœur. Et je pouvais voir n'importe qui après, n'importe qui. Mais intéresse-toi à celui qui a devant toi. Alors les amis, nous sommes tous pasteurs, nous sommes tous bergers, nous sommes tous bergères pour ceux qui ne viennent pas à l'église. N'oublions pas que Jésus a choisi 12 disciples et après l'église est arrivée. Il n'a pas attendu qu'il y ait l'église pour choisir des disciples. Pasteur, berger, bergère, qui sont tes disciples? Qui sont tes disciples? Est-ce qu'il y a des noms qui viennent là? Est-ce que vous pensez à des personnes? Qui sont tes disciples? Qui sont ces personnes égarées que tu peux amener sur ce bateau de sauvetage? Ouais, ça va peut-être tanguer. Ouais, il y aura peut-être des conversations que tu n'es pas habitué à avoir. Mais une fois de plus, on est des sarments, on n'est pas le cep. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. C'est quelque chose qui me touche, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'autre sens. Hein. Moi, de par mon témoignage, Jésus a envoyé des personnes sur ma route dont j'étais le disciple, des personnes remplies du Saint-Esprit, qui n'ont pas regardé à ma débauche, qui n'ont pas regardé à tout ce que je faisais, mais qui ont regardé avec les yeux de Jésus. Et la principale est devenue ma femme, vous voyez, qui connaissait ma vie de débauche par cœur. Mais je suis là aujourd'hui. Alors oui, je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas un théologien, mais j'aime Jésus et je veux partager la foi que j'ai, je veux partager ce qu'il a fait dans ma vie. Et je crois que c'est notre rôle de chacun. Alors, pasteur, où est ton église? Vous savez, là, il y a la présence de Dieu parce qu'on est là. Hein. Après le repas, on va tous partir. Ça sera que quatre murs ici. Ton église, elle va être là où tu vas être cet après-midi. Elle va être là où tu vas être ce soir. Elle va être sur ton lieu de travail. Elle va être dans ton quartier. Pasteur, où est ton église? Les amis, c'est nous l'église. Donc mettons moins de pression à nos leaders, moi le premier. Je suis embarqué comme eux dans cette histoire, comme eux. Mais par contre, allons-y. Allons raconter ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. C'est parti? Qu'on puisse repartir chacun avec nos bateaux de sauvetage. C'est ma prière pour vous aujourd'hui, c'est ma prière pour moi aujourd'hui. Dieu nous appelle à ça. C'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit là. Vous savez l'histoire de Zachée? Ah, on peut finir avec ça. J'aime beaucoup l'histoire de Zachée. Zachée, vous connaissez tous, c'est un chef des collecteurs d'impôts qui détournait, qui faisait un peu ce qu'il voulait. Regardez dans Luc 19, à partir du verset 3. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne cherchait pas à savoir la connaissance de Jésus, il cherchait à voir. C'est-à-dire que le comportement de Jésus devait interpeller qu'on avait envie de le connaître. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courait alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Jésus, l'ami des pécheurs. Et Zachée, comment il réagit? Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Jésus dégageait tellement quelque chose que Zachée, ça l'a même pas choqué que Jésus s'invite chez lui. Avec joie. Les gens doivent être heureux de nous rencontrer, de par notre comportement. Souvent je dis qu'on doit avoir des gueules de sauvés. Souvent je le dis, mais c'est vrai. Et moi le premier, j'ai pas assez. Et souvent quand j'arrive au boulot, j'ai pas cette gueule de sauvés. On doit avoir ce comportement qui fait que les gens sont heureux. Et peu importe qu'on aille manger chez l'un, chez l'autre, qu'on aille boire une bière là et tout, la personne doit être heureuse d'être avec nous. Et regardez la suite. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme est allé loger chez un pécheur. Ceux qui jugent avant d'aimer, ils sont là. C'est, ah, Jésus va chez lui. Pouc. On juge avant d'aimer. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré en toi dans cette maison, parce que toi aussi, tu es un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On amène des gens à Jésus, il y a quelque chose qui se passe, il y a un comportement qui change, et voilà. C'est pas très compliqué. Jésus n'avait rien à faire de sa réputation. Il n'avait rien à faire de sa réputation. Il voulait aimer, et après discuter. Il s'invitait chez les gens, et après discuter. Au bout d'un moment, notre réputation, nous aussi, il faudrait qu'on passe outre. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos portes, à manger avec d'autres personnes, à rester avec un peu moins de chrétiens? C'est facile de manger avec des chrétiens. Vous allez chez les bourgeois, les chars qui se lèvent, vous buvez du bon vin, vous êtes truc, vous avez... c'est bien. Chez Perret, chez tout ce chez qui je vais, mais on passe de bons moments, c'est génial. Mais faire attention quand on est trop souvent ensemble. La mentalité du bateau de croisière. C'est pour moi aussi ce message, je vous le dis, hein. J'ai été repris, mais vraiment, c'est pour moi, et ça m'a fait du bien. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. C'est tout simple, mais je crois qu'il faut revenir un peu à l'essentiel. On peut peut-être prier, non? On va se lever, on va prier, on va remettre tout ça au Seigneur. Cours la chocolat.